Bonjour à tous. Très heureuse, vraiment ravie, contente de vous retrouver tous ce matin. Nous entamons une 13e saison et j'espère vraiment qu'elle va être porteuse de plein de belles choses, très chanceuse pour nous tous parce que vous avouerez que c'est une époque extrêmement bizarre qu'on vit. Vraiment, je pense que les mots nous manquent à un moment donné pour expliquer ce qu'on vit. Moi, sincèrement, j'ai passé l'été à essayer de prendre un peu de recul, puis je sais que vous aussi, vous avez essayé de faire d'autres choses que de parler de la maudite COVID, mais on est comme toujours en train de revenir à ça. Je tiens d'abord, avant de commencer cette saison avec vous et avec toute mon équipe, toujours en poste, bien sûr, Fred Perron est là, il y a Normand Gem et Isabelle Laure à la recherche, et je les remercie d'être là parce qu'ils m'accompagnent pendant toutes ces années auprès de vous. Mais je tiens à remercier mon ami Dan Bigrand, qui a été là cet été avec vous, qui a été formidable. Je sais que vous l'avez beaucoup apprécié, puis je vous comprends parce que je l'aime fort, moi aussi, on se connaît depuis très longtemps. Dan, c'est un gars super. Super. Alors, merci, cher Dan. Je t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Tu nous écoutes, je le sais. Fait qu'on pense beaucoup à toi. 13e saison, effectivement, qui s'ouvre aujourd'hui sur deux sujets très importants d'actualité. Il va être question des deux plus grands postes budgétaires du gouvernement, la santé, l'éducation. En ce moment même, d'ailleurs, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est en train de s'adresser publiquement un peu à tout le monde. Le ministre de l'Éducation est en train de présenter une espèce de plan revu, corrigé. Ils disent actualisé parce que la semaine dernière, quand il nous a présenté son plan de rentrée scolaire, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Je sais que vous en avez énormément des questions. Puis je vous le dis tout de suite, je vais vous donner nos numéros. Vous allez avoir la parole en deuxième heure d'émission, en première aussi, mais en deuxième heure, je veux avoir vos réactions après ce que va nous avoir annoncé Jean-François Roberge, des nouvelles mesures qui, on l'espère, vont toucher le rattrapage scolaire, vont bien sûr toucher toute la question des fameuses bulles, le port du masque dans les corridors, mais pas dans les salles de classe. Ça devient un peu compliqué. On va parler de ça tout à l'heure en deuxième heure. En première heure, on va parler effectivement de santé, parce que vous avez vu François Legault, peut-être hier, aux Nouvelles TVA, donner une entrevue qui m'a beaucoup intéressée, surtout parce que le premier ministre a dit qu'il n'était pas question dorénavant de tolérer des erreurs dans les CHSLD. Il y a eu trop de gens qui étaient des mauvais boss, puis il y a bien trop de fois où il n'y a carrément pas de boss, qu'il a dit. Il n'y a pas de patron. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de patron? Des fois, il y en a trop, puis quand il y a trop de patrons, a dit le premier ministre, c'est comme si tu n'en avais pas. Alors là, il dit les patrons vont devoir être imputables. Ça veut dire quoi, imputable? Ça veut dire que tu es responsable de tes décisions. Hop là, ça va changer les affaires. On n'est pas habitué à ça au Québec, hein? Du monde responsable. C'est jamais la faute de personne. C'est pas votre faute, ma petite madame, mon petit monsieur. Ben non, c'est de même. C'est de même. Tout Québec, c'est de même. On va en discuter. La question que je vous pose tout de suite, des patrons de CHSLD imputables, est-ce que vous y croyez? Gros changement d'organisation, gros changement de mentalité. Pierre Blain est président directeur général de l'organisme Les Usagers de la Santé du Québec. Bonjour Pierre.
Bonjour Isabelle.
Est-ce que ça se peut, ça, des patrons de CHSLD imputables, responsables de leurs décisions?
Ça devrait, mais on dirait que ça n'existe pas dans beaucoup de cas. Dans les entreprises privées, on en a, dans certains CHSLD privés, même s'ils vendent des places au public, quand c'est une chose de famille, on sent tout de suite la différence. Mais au niveau du public, là, c'est bien dur. Pourtant, il y a eu des engagements qui ont été pris dans le passé et on dirait qu'ils n'ont pas jamais été appliqués.
Parce que, Pierre, c'est pas nouveau quand même qu'on essaye de corriger des choses qui fonctionnent pas en CHSLD. Déjà, je m'en souviens, puis vous vous en souvenez, il y a près de 4 ans, en 2016, en novembre 2016, les libéraux avaient, sous Gaétan Barrette d'ailleurs, ministre de la Santé, instauré un forum sur les meilleures pratiques en CHSLD. Et ça devait servir justement à colmater les brèches de tout ce qui marche pas.
Absolument. Plus que ça, c'est moi-même qui a ouvert ce forum-là. Le ministre de la Santé m'avait donné justement la parole pour que j'ouvre le forum pour parler directement au PDG. Et c'est exactement ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, il faut que vous soyez imputable. Il faut surtout que vous ayez la bonne approche avec les personnes qui résident chez vous. Et on dirait que ça n'a pas été entendu, malheureusement.
Mais il y a 4 ans, Pierre Blain, est-ce que ce message que vous avez porté, vous dites que ça n'a pas été entendu aujourd'hui, mais à l'époque, est-ce que la réponse avait été « oui, on comprend, puis on est d'accord et on va le faire »
Pas vrai. Ben oui et non, puisqu'il y a eu un engagement écrit des PDG pour mettre en place des mesures. Et plus que ça, le ministre lui-même disait à ce moment-là, et je lis textuellement ce qui est dans le rapport, « Assurer le suivi des résultats et la reddition de comptes des engagements pris par les présidents directeurs généraux. » 18 novembre 2016, ça n'a jamais été mis en place. Alors, que le premier ministre nous dise aujourd'hui que les gens ne sont pas là, mais il y avait juste à mettre en place les mesures plutôt que tout balayer du revers de la main quand ils sont arrivés au pouvoir.
Donc, ils ont fait signer les directions générales, les directeurs généraux, pour qu'ils soient évalués.
Oui. Et je vais vous donner un exemple. Pourtant, il y en a eu de la reddition de comptes, puisqu'il y a eu deux PDG qui ont été renvoyés, qui n'ont pas été renouvelés. Il y a eu un sous-ministre adjoint aussi que je connais qui a été mis de côté. Par conséquent, la reddition de comptes, ça existe quand ça fait notre affaire.
Ouais.
Quand on ne veut pas prendre des mesures, ben là, on tergiverse. Et c'est malheureusement ce que j'ai l'impression qui arrive maintenant.
Ouais. Je disais tout à l'heure que j'allais donner nos numéros de téléphone aux gens là, pour qu'ils puissent intervenir sur cette question qui est assez importante. Alors, dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850 et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On se demande si c'est possible de rendre les patrons de CHSLD responsables de leurs décisions imputables. On expliquera un petit peu plus tard ce que ça veut dire imputable, mais dans votre compréhension à vous, Pierre Blin, pour vous, l'imputabilité, ça veut dire quoi quand on est un patron de CHSLD?
Le problème est là, Isabelle, vous venez de le dire, quand on est un patron d'un CHSLD, il n'y en a pas de patron d'un CHSLD actuellement. Dans la structure telle qu'elle a été mise en place, maintenant, il y a plusieurs personnes à l'intérieur de la structure du CIS ou du CIUS qui est responsable de ça. Mais comme tel, à l'intérieur, il n'y a pas une personne responsable. Pourtant, ça aussi, c'était un engagement qui a été pris par les PDG qui, à l'article numéro 4 de leur signature, disait qu'ils devaient désigner des personnes et s'assurer que le suivi était fait. Moi, je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait des personnes responsables et il faut que les décisions se prennent le plus bas possible. Malheureusement, dans le système de la santé actuellement, on a tout centralisé en haut et on n'a pas délégué en bas. Et moi, je pense que c'est tout simplement le syndrome du petit boss. Le petit boss, pour une fois qu'il a un pouvoir, ben il garde tout alentour de lui, puis il oublie qu'il faut qu'il délègue en bas et qu'il mette surtout des personnes responsables. Quand on met des personnes responsables, ensuite de ça, il faut les écouter, puis il faut surtout prendre les mesures qu'ils nous recommandent de prendre. Alors, c'est toujours difficile pour un dirigeant d'accepter que d'autres personnes puissent avoir une autre opinion que la leur. Alors, je pense que c'est ça le problème.
Puis, il y a un système aussi, là. Le système...
Il est fou. Là, présentement, il est fou. Parce que on n'a pas recommandé ce que, entre autres, moi, ce que j'ai dit et ce que tous les experts ont dit. Il faut qu'on délègue au plus bas dénominateur commun. Une centralisation, c'est bon pour harmoniser, mais c'est pas le bon pour gérer. Donc, il faut que la gestion se mette en place le plus bas possible. Je vais vous donner un exemple de ce qui est arrivé dans un CHSLD en Estrie, où il y a eu un résident qui a tué un autre résident. Ben, ça a pris 18 heures avant qu'une personne se considère en charge pour appeler la police. Donc, c'est pour vous dire comment le système ne fonctionne pas actuellement et qu'il faut qu'on revienne justement à une gestion au plus bas dénominateur commun.
Parce que quand on parle de CHSLD, en fait, Pierre Blin, on parle d'un patron qui se trouve être le patron du CIUS, c'est ça?
Exactement. Et ensuite de ça, les patrons qui gèrent les CHSLD, il y en a 4 ou 5 qui sont aussi dans le CIUS. Comme tel, il n'y a personne comme tel qui est responsable à l'intérieur. Je sais qu'il y a une personne qui normalement est responsable de l'entretien ou une autre personne qui est responsable des dossiers informatiques. Mais comme tel, il n'y a pas, on n'identifie pas une seule personne qui est responsable et qui est capable de prendre les décisions et surtout de faire changer les choses.
J'ai étudié ce matin l'organigramme de la haute direction du CIUS. Juste prendre cet exemple-là, de l'est de l'île de Montréal.
Oui.
Fait que là, tout en haut, évidemment, il y a le ministre. En dessous de lui, il y a le sous-ministre. qui l'a directement la flèche après, c'est le président directeur général du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Puis en bas de ça, il y a comme une quinzaine de directions générales, oui, avec en dessous d'elles une autre douzaine d'autres, oui, directions. Ça fait bien des directeurs et directrices et directions. Je ne sais pas s'ils savent dans quelle direction ils vont, mais en tout cas, j'essayais de trouver là-dedans qui était en charge des CHSLD, puis j'ai pas vraiment trouvé.
C'est justement, c'est qu'en dessous du PDG du CIUS que vous venez de mentionner, là, vous allez avoir une personne qui est en charge de l'hébergement, de tout ce qui est service. Donc, ouais, là, les services, vous allez avoir CHSLD, vous avez soins à domicile, vous avez vous avez ça. Comme tel, là, ensuite de ça, il y en a pas une personne responsable. Donc, vous avez tout à fait raison de l'avoir vu, ça. Mais vous avez oublié une autre tranche là qui est en haut là.
Ouais.
Les sous-ministres adjoints là. Mm-hmm. Les autres aussi ont une responsabilité parce que les infirmiers se retrouvent sous un sous-ministre adjoint. L'informatique, la paye, les ressources humaines se trouvent ailleurs. Donc tout ce monde-là interagit avec le PDG en bas, qui lui-même a aussi une structure monstrueuse. Par conséquent, on n'est pas capable de gérer comme ça. On n'est pas capable.
Il y a aussi des petites flèches qui, oui, partent du ministre, qui vont, oui, au président directeur général. Puis il y a une case qui dit conseil d'administration. C'est quoi ce conseil d'administration-là? C'est-tu du monde qui décide vraiment?
Rien. Il décide rien. Un conseil d'administration, normalement, c'est lui qui devrait être imputable. Mais malheureusement, avec mon expérience et l'expérience actuelle, il n'y en a pas de responsabilité au niveau du conseil d'administration. Il se cache. Mmh. Est-ce que vous avez entendu un président d'un conseil d'administration parler pendant la crise des CHSLD puis du COVID? Aucun. Parce que justement, ils n'ont pas le droit de parler, ces gens-là. Il y a eu justement un président de conseil qui, dans le temps, avec le CHUM, qui a voulu faire des vagues, et ça n'a pas été long, qui a été tassé et qui a été mis en porte. Mais la chose la plus importante à l'intérieur de ça, de ces conseils d'administration, puis ça, je l'ai vécu, puis j'ai eu une grosse, grosse discussion, puis j'ai eu des grosses luttes avec ça, c'est la responsabilité collective que les gens ont entre eux. Mm-hmm. Ils ne peuvent pas intervenir à l'extérieur du réseau et ils ne peuvent pas parler. Par conséquent, pourquoi en avoir des conseils d'administration dans ce cas-là? Et surtout que le boss, vraiment, c'est le PDG, puis qui agit comme il veut. Par conséquent, les autres, c'est juste là pour faire du rubber stamping, point à la ligne. C'est pas plus que ça. Mmh.
Pierre, on va s'arrêter ici. Il y a déjà des gens qui veulent intervenir, donc on va donner la parole à nos auditeurs et auditrices. On va aussi, également, après la pause, parler à un ex-ministre de la Santé qui a déjà géré l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal, David Levine, qui va pouvoir nous dire, lui, si à son époque, il y avait une responsabilité comprise et comment il vivait ça, lui, comme patron. Alors, vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 dans la grande région de Montréal. Et de l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. On se demande, est-ce que c'est possible de rendre les gens qui dirigent les CHSLD et plus largement les CIUSSS, finalement, est-ce que ces gens-là doivent répondre de leurs actes? Est-ce qu'ils sont responsables, d'après vous, ou c'est pas la faute de personne? Est-ce que vous y croyez à ce que François Legault disait la semaine dernière? À tout de suite. On se demande, est-ce que c'est possible de rendre responsables de leurs décisions des patrons de CHSLD? Évidemment, c'est une déclaration du premier ministre François Legault qui s'est dit vraiment très surpris que dans plusieurs CHSLD dans la province, il n'y avait pas de patron. Et il dit qu'il faut absolument corriger ces erreurs-là, surtout les erreurs qui ont été commises lors de ces derniers mois de COVID-19 dans les résidences pour personnes aînées qui, comme vous le savez, ont été les plus touchées. C'est vrai qu'on a le pire bilan au pays. Hein? On parle de cette première vague, on attend une deuxième. Là, on compte plus de 5700 décès. C'est assez incroyable. Et ça nous a occupé beaucoup à savoir comment ça se fait qu'on les a oubliés, ces CHSLD. On a d'ailleurs eu l'occasion d'entendre la semaine dernière en entrevue avec mon collègue Paul Arcan, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, qui parlait déjà à mots... pas tout à fait couvert, c'était assez direct. Il semblait nous enligner sur ce que François Legault a dit hier en entrevue. On écoute Christian Dubé.
Je vais être clair, là. Si on a été capable de changer un ministre, un sous-ministre, on est capable de changer un PDG, si c'est là le problème.
Voilà. Mais est-ce qu'on est capable de changer la mentalité de tout un système? Est-ce qu'on est capable de changer les façons de faire? Ça, c'est se revirer sur un 10 cents, c'est pas évident. Et en ce moment, c'est un peu ça que ça prendrait. On a des auditeurs qui veulent intervenir. Marilyn, par exemple, vous avez eu une expérience assez malheureuse, vous, en CHSLD. Bonjour, Marilyn.
Oui, bonjour, Madame Isabelle. Donc, j'ai souffert, je souffre jusqu'à maintenant parce que ma mère était autonome, elle était tombée chez elle et l'hôpital Sacré-Cœur a dit qu'on donne soin à ta mère. Donc, je l'ai pris chez moi pendant 2 mois après le CL et la place qui était en attente pour elle. Mm. On a trouvé une place au CHSLD paragouvernementaux. Ma mère, les préposés ont dit qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle prend son bain toute seule et donc elle ne veut pas qu'on lui donne son bain. Donc, elle est un peu autonome. Donc, j'ai dit oui. Et moi, j'allais la voir souvent. Et puis, un matin, 6 heures, il y a un préposé qui était devenu infirmier. Il m'a téléphoné. Il a dit, Madame, venez, venez. J'ai trouvé votre mère dans son pipi, devant son lit. La préposée de nuit a oublié de barrer son lit. C'est un désordre. Il embauche n'importe qui sans diplôme. C'est des faux diplômes. La plupart d'entre eux, c'est pas tous. Et puis, ils ont copié leur diplôme. C'est un commerce. Moi, je travaille dans un CHSLD, donc dans l'Ouest.
Vous travaillez en ce moment dans un CHSLD?
Oui, moi, je suis en arrêt de travail pour un accident de travail.
Ouais.
OK? Donc, moi, j'ai dû appeler plusieurs avocats. Je voulais même contacter la ministre de la Santé. Je n'ai pas pu. Après, le dernier avocat que j'ai trouvé, c'est un monsieur qui m'a dit, « Madame, vous perdez votre temps. » Ces gens-là ont beaucoup d'avocats parce que c'est un désordre. Votre mère, on va le dire qu'elle est morte de vieillesse. Ma mère a dit, « Je souffre, j'ai mal à la tête. » Elle avait un caillot de sang.
Donc, elle est en tombant,
mois seulement.
En oui, tombant, vous oui. pensez, Marilyn, ouais.
Oui, la préposée de nuit a oublié de barrer le lit, le lit d'elle. Donc, elle est tombée. Donc, et les deux préposés qui étaient témoins ont dit non, il faut faire quelque chose, madame, il ne faut pas laisser tomber ça. J'ai pris 3 avocats. Le premier avocat m'a dit, madame, vous allez me payer 2 000 $ pour ouvrir le dossier. Mm-hmm. J'ai essayé de contacter le ministre des personnes âgées. OK? Mm-hmm. Ils ont dit, madame, vous perdez votre temps parce que ces gens-là ont des gens derrière eux. Moi, même la madame qui venait faire les ongles de ma mère, ils ont passé plusieurs années à m'envoyer des factures. J'ai dit non. Moi, j'ai pas de recours. Je souffre. Ma mère a dit, je vais mourir parce que j'allais coiffer ma mère tout le temps.
Ouais, et dans sa chambre. C'est désolant, ces histoires-là, Marilyn.
C'est incroyable, madame, comme il y a un désordre, des faux diplômes, et à cause de manque de main-d'œuvre.
Et le patron du CHSLD, de ce CHSLD où était votre maman, Marilyn, il vous a pas appelé, il a pas essayé de...
Oui, j'ai appelé et puis je lui ai parlé. Il a dit, madame, c'est un accident, on a besoin de ces employés-là. Il y a un manque de main-d'œuvre, on a besoin de ces employés-là. Et faites ce que vous voulez, on peut rien faire pour vous. Mais j'ai dit, mais ma mère est assurée, c'est son argent de sa pension de vieillesse.
Ouais.
Qu'on paye, ouais. C'est avec leur argent, ils détruisent les personnes âgées. Moi, je travaille dans un CHSLD. Mm-hmm. Okay, je ne vais pas citer le nom, okay, parce que moi, j'ai vu les gens qui tutoient les personnes âgées. « Oh, mon amour, viens t'asseoir, assieds-toi. » Moi, quand je passe à côté, ça me fait mal, je pense à ma mère.
Il dit, ouais, je comprends.
Arrange-toi. Ouais. Arrange-toi. Pas de respect du tout. C'est des gens qui sont embauchés sans études.
Merci, Marilyn. On comprend tout à fait votre douleur, parce que une histoire comme ça, c'est épouvantable. Et il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui ont vécu un peu ce genre d'histoire aussi, que ça soit un parent mal suivi, un parent traumatisé après un séjour en CHSLD. Il y en a. Malheureusement, il y en a un peu trop. On va parler à David Levine, qui est un ex-ministre de la Santé. Il est l'ex-président directeur général de l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal. David Levine a été ministre sous Bernard Landry. Il a dirigé le centre hospitalier de Verdun, l'hôpital Notre-Dame de Montréal, ensuite l'hôpital d'Ottawa. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur Levine.
Bonjour.
Vous, à votre époque, est-ce qu'il y avait une responsabilité du directeur général d'un CHSLD, d'un hôpital? Comment ça fonctionnait?
Ben, à mon époque, on avait les DG des établissements et on avait nos conseils d'administration. Et chaque DG était choisi par son conseil d'administration, congédié par son conseil d'administration, et il était responsable de l'établissement. Et parce qu'il était physiquement dans l'établissement, il connaissait l'établissement, il connaissait les patients, il connaissait les employés, les médecins. Nos CHSLD, à l'époque, avaient chacune une DG. Il y a des CHSLD qui étaient excellents parce que leur DG était très, très, très présent. Il y en avait d'autres où c'était moins bon. Et le conseil d'administration était responsable de regarder leur DG et de lui remercier s'il ne marchait pas ou s'il y avait trop de plaintes. Aujourd'hui, ça a changé complètement. Avec la réforme Barrette, tout est centralisé au gouvernement, au ministère. On a créé 22 CIUS ou les grands centres intégrés. Pas de problème avec les centres intégrés qui peuvent donner un soin global à des patients de l'hôpital, au centre de réadaptation, aux soins de longue durée, soins à domicile. Tout intégré, pas mauvais. Le problème, c'était on a donné un PDG à l'ensemble de CIUS. M. Barrette a coupé 2000 postcards à ce moment dans notre réseau de la santé et tous les DG de nos CHSLD a été remercié. Alors finalement, moi qui connais Montréal, il y a des CIUS qui a 15 CHSLD sous la responsabilité d'un individu qui n'est pas physiquement dans des CHSLD, c'est impossible, il y en a 15, et chacune de ces CHSLD n'ont pas quelqu'un, n'ont pas un directeur sur place qui s'en occupe de tout l'environnement, de tous les patients, de tous les besoins, de tous les employés, de syndicats locaux. Et c'est ça le vrai problème d'aujourd'hui.
Mm-hmm. Et c'est ça qui a surpris François Legault. Ça a l'air que la semaine passée, quand il a fait sa tournée là, du Québec, il s'est rendu dans des CHSLD, puis il se rendait compte qu'il n'y avait pas de patron. Il était bien étonné de ça, effectivement. En l'apprenant, nous aussi, on est surpris.
Il a bien compris, et je pense qu'il est très conscient, en étant lui-même ministre de la Santé, quand moi j'étais là, très conscient de le changement, que la centralisation de l'ensemble du système de santé a fait, la bureaucratisation du système de santé. Vous savez maintenant que le PDG est nommé par le ministre, l'assistante ou l'adjoint est nommé par le ministre, le conseil d'administration est nommé par le ministre et le DG ou le PDG est congédié par le ministre. Alors, la notion d'imputabilité aujourd'hui a complètement changé et les PDG sont vraiment dans la même situation qu'un sous-ministre adjoint ou un sous-ministre associé au gouvernement. C'est à l'intérieur de la machine. Alors, c'est pas le même type d'attachement qu'on avait à l'époque à nos établissements.
C'est des postes politiques, c'est ça que vous me décrivez, David Levine.
Ben, il y a un volet politique. Je pense que le ministre est suffisamment habile de choisir des bonnes personnes qui ont de l'habilité, mais à l'intérieur du ministère, notre attitude, c'est de rendre compte, de toujours trouver le coupable, de pas donner la liberté d'action pour permettre l'innovation de la créativité. Un DG, un directeur d'un environnement devrait être capable d'être proche, de connaître qu'est-ce qui se passe, d'avoir les gens à qui ils sont fiers. Je vous donne l'exemple. Le gouvernement a même demandé dans chacune de nos CIUS que l'organigramme, ça veut dire la structure pour gérer, est définie par le ministère. Un DG, chaque établissement est différent. Un vrai PDG doit regarder son établissement et ajuster son structure administrative, on appelle ça son organigramme, pour mieux répondre aux besoins. Si tu en as plus de CHSLD, on s'organise de mettre des personnes responsables de chaque CHSLD individuellement. Mm-hmm. On les donne des responsabilités.
Ouais. Pensez-vous que, puis là, on a vu défiler beaucoup des ministres de la Santé au fil des ans. Là, on en a un nouveau, Christian Dubé, qui a été à la Caisse de dépôt, qui a été en affaires, qui a une vision, on l'a un peu rappelé ces derniers jours, qui a une vision plus entrepreneuriale de la chose. Peut-être qu'il va fonctionner, puis les gens qui sont en affaires vont le comprendre un petit peu plus comme en business unit, là, c'est-à-dire des unités d'affaires, c'est-à-dire comme une entreprise. Tu as un patron, tu as des employés, puis c'est le patron qui doit insuffler la vision, qui doit donner les... sans dire à, forcément, toi, tu fais ça, sans donner des ordres, mais la vision d'un CHSLD, ça doit bien exister. Ça. On a le droit d'avoir de la vision. Vous venez de parler de créativité puis d'innovation en CHSLD. Tout à l'heure, on parlait là, du forum sur les meilleures pratiques en CHSLD en 2016, il y a 4 ans. C'était ça l'idée aussi à la base, Pierre Blin, pour y revenir tout à l'heure, mais c'était de dire, regardons là où il y a les meilleures pratiques en CHSLD, puis faisons ça, échangeons-nous nos bons trucs, puis on va améliorer la situation, mais c'est pas ça qu'on a fait. Donc, est-ce que vous pensez que Christian Dubé, lui, avec sa vision plus business de la chose, peut changer un système?
Moi, je pense que oui. Il vient d'un milieu où, effectivement, il faut donner l'autonomie à vos gestionnaires, il faut donner la capacité de mettre en place la vision et des meilleures pratiques. Et c'est ça que je pense, lui a comme compréhension. Est-ce qu'il va être capable de changer la machine? La machine du ministère de la Santé est lourde, est puissante, est structurée. Il est juste une ministre. Moi qui étais ministre, on pense qu'on peut changer tout, changer contre une résistance de tout un ministère qui maintenant sont littéralement en pouvoir du réseau de la santé. C'est le ministère qui gère le réseau de santé. C'est chaque sous-ministre adjoint qui gère tous les ressources humaines de réseau, tout le matériel de réseau, toute la structure médicale de réseau. Est-ce que il va avoir la force? Je pense que oui, c'est une ministre qui a un certain gabarit et avec son expérience de caisse de dépôt, je pense que il y a une possibilité maintenant.
Merci beaucoup, David Levine, d'avoir pris le temps de nous parler. On aura l'occasion, sans doute, de se reparler au cours des prochains jours et semaines. Merci bien. David Levine, est ex-ministre de la Santé du Québec, il a dirigé l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal. Il croit en Christian Dubé, vous avez compris. On va s'arrêter ici. Bien sûr, vos commentaires au retour. On va également parler à Laetitien René Villemur, qui va nous expliquer ce que ça veut dire, imputabilité, et la différence aussi avec la responsabilité. À tout de suite, tout le monde. Qui va devoir répondre de ce qui s'est passé dans les CHSLD en crise de COVID-19? Est-ce que on va pointer du doigt les patrons? Le premier ministre François Legault l'a fait. Il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a dit que il allait falloir trouver du monde responsable et payer les conséquences s'il y en a. Il va y avoir des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences. Donc, on peut pas se permettre de dire il y a eu des erreurs humaines. Malheureusement, il y a eu des décès dans tel CHSLD. Parce qu'on n'a pas porté d'équipement. Ça, c'est ce que disait aussi François Legault la semaine dernière. Donc, on voit clairement cette volonté du gouvernement de dire il y a des gens qui vont devoir répondre de leurs actes. Céline, vous y croyez? Bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Écoutez, M. David Levine a bien dit ce que moi je voulais dire. Moi, j'étais infirmière dans un hôpital, mais j'avais 2 personnes de ma famille qui étaient dans un CHSLD dans les années 80 puis sont décédées au début de l'année 2000. Là, il y avait quelqu'un qui était responsable. C'était très bien organisé. Il y avait un comité des malades. Il y avait un comité pour... Même les parents, on pouvait faire partie d'un comité. Si on avait quelque chose à dire, ça allait très bien. Il y avait... La minute qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ça finissait par se régler. Je ne dis pas que tout se réglait, mais en général, là, ça allait bien. Puis les patients étaient très bien... organisé, il manquait pas de soins.
Merci.
Il y avait du personnel, ça allait bien. Ils ont mis les chiusses, puis ça, c'était...
C'est venu compliquer les affaires pas mal. Merci, Céline. Merci beaucoup. Normand, bonjour.
Oui, bonjour, Mme Maréchal. C'est un peu une petite réflexion sur l'imputabilité.
Oui.
Voyez-vous, moi, je trouve que notre système est mou. On regarde aujourd'hui, là, juste par exemple... Qui peut être accusé? Un ingénieur, il y a eu l'effondrement du viaduc du Souvenir. Personne n'est accusé. La petite fille de Granby, le travailleur social s'est occupé d'elle. Est-ce que je veux dire que est-ce que c'est à cause d'elle que la petite fille est morte ou le patron de la travailleuse sociale? C'est ça aujourd'hui. Ceux qu'on voit qui sont accusés, qui sont imputables, vous avez les policiers dans la société qui sont accusés. Mais pour accuser quelqu'un aujourd'hui, ça prend beaucoup de choses, puis je pense qu'on n'est pas rendu là. Puis c'est des choses qui devraient se faire.
Merci, Normand.
C'est,
merci.
C'est mon commentaire.
Ben oui, tout à fait. Très juste. Notre système est mou. Je pense qu'on est assez d'accord avec ça. On voit ce qu'en pense Laetitien René Villemur. Bonjour, René.
Bonjour.
Je pense qu'à ce moment-ci de la discussion, on va expliquer un peu la différence entre imputabilité, parce qu'on dit souvent, puis il y a des gens qui me l'ont fait remarquer, parce que faut dire que, bon, les politiques, premier ministre, Christian Dubé, ont parlé de gens imputables, alors que, bon, c'est sûr que c'est un... On dit en français que c'est un barbarisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste des faits qui peuvent être imputables. Mais on peut parler de gens responsables. Est-ce que c'est différent, imputabilité, responsabilité, c'est-tu la même affaire?
Ben, en réalité, c'est deux mots qui sont différents, qui ont un lien ensemble. Avant de faire, de commettre une action, de réaliser une action, on dit à la personne responsable, si on prend la racine étymologique du mot, c'est celle qui peut promettre, là. Donc, on dit à la personne, prends une action, choisis les moyens, puis après, tu vas être imputable, donc tu vas rendre des comptes.
Mm-hmm.
Donc, l'imputabilité, c'est après une action. La responsabilité, c'est avant. On peut pas dissocier les deux. Sauf que, au fil du temps, l'imputabilité, qui est l'action de rendre des comptes, dans le domaine de la santé, ça s'est souvent retrouvé comme étant un mot vide de sens dans un rapport annuel pour faire joli. C'est que après une action, il y avait rarement cette imputabilité-là qui est l'action d'être digne d'éloge ou de blâme. Là. Donc, il n'y avait pas grand-chose. On disait les gens sont imputables, le ministre est imputable, le directeur est imputable, mais il se passe à rien. Là, ce que M. Legault a dit, c'est, dans le fond, je vais appliquer ce qui est déjà prévu puis qu'on a dit longtemps sans le faire. Alors, c'est une différence. Il y a la volonté entre les deux, là, parce que la qualité de la personne responsable d'avoir l'action, il faut qu'elle ait le choix des moyens, le désir de l'action, puis qu'elle le fasse.
Mm.
Et après ça, elle est imputable, succès ou échec, comme tel. Fait que l'imputabilité, c'est pas toujours un échec, là, c'est le succès aussi. Mais c'est rendre compte de ce qui s'est passé et d'assumer les conséquences. Et puis, dans le système de la santé, on a souvent vu une absence de conséquences. Donc, ouais. Une imputabilité de façade.
Voilà, imputabilité de façade, c'est bien dit. Mais ce qui peut arriver, en fait, c'est fais ce que tu as à faire, sinon tu vas perdre ta job. C'est un peu ça, finalement, qu'on risque de mettre en place.
C'est un sinon, oui, ça c'est certain. Est-ce que c'est perdre la job, est-ce que c'est une sanction haute? Mais il y a un sinon, clairement. Parce que si on dit que la personne, tu es imputable, mais il ne se passe rien, ben tu n'es pas imputable.
Mm.
C'est-à-dire que là, on vous impute les faits, mais on n'a pas de conséquences aux faits en question.
Évidemment, là, on pointe du doigt les patrons, René Villemur, mais tout à l'heure, il y avait une auditrice, Marilyn, dont la mère est morte après être tombée dans un CHSLD. Elle dit qu'il y avait un employé qui n'avait pas barré le lit. Puis bon, des histoires, il y en a plein. Là, je pourrais juste ouvrir les lignes là-dessus, demander aux gens ce qu'ils ont vécu avec un proche dans un CHSLD, puis on en aurait pour toute la semaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas que les patrons non plus qui peuvent être responsables de leurs actes? On est tous, en fait, responsables de nos actes. Un employé de CHSLD qui ne barre pas un lit devrait être responsable aussi, non?
Absolument. Ça, c'est une faute à ce moment-là, mais là, on est imputable de nos fautes, c'est bien certain, mais il faut voir une chose. Il faut distinguer l'employé qui n'a pas barré le lit dans CHSLD de l'employé où il devrait être 15 ou 16 préposés, puis sont deux dans le CHSLD.
C'est ça.
Et là, le patron est responsable avec l'employé, une co-responsabilité, si on veut.
Mais, ça va être pour dire que ça va être compliqué, gérer ça, là.
Oh, que ça va être compliqué. Mais l'ingrédient principal, si on veut réussir à y arriver, c'est la volonté de le faire. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, moi, dans l'appareil public, ça manquait de volonté.
Mm-hmm.
D'accord? Et puis, avec la volonté, je pense que, puis la bonne volonté, là, je pense qu'on va réussir à arranger bien des choses. Parce que c'est difficile de dire à l'employé qu'il n'a pas barré le lit, t'as fait une faute pendant qu'il devait s'occuper de 41 patients à la fois. Oui, il a fait une faute. Mais le fait qu'il s'occupe de 41 patients à la fois, c'est pas son pouvoir. Donc, il y a comme, il y a un partage de fautes là-dedans. Là.
Voilà. Puis moi, si je suis DG de CHSLD aujourd'hui, je vais clairement dire, OK, vous voulez me rendre imputable de certaines choses, vous voulez me rendre responsable, mais je veux des moyens, par exemple. C'est pas vrai que c'est moi qui va porter le blâme pour ce que le gouvernement ne fait pas depuis des années. Il y a ça aussi, là.
Ben, justement, la personne qui accepte l'imputabilité, là, elle doit avoir le choix des moyens. On doit mettre des moyens à sa disposition. Mmh. Sinon, on est juste pris avec une corde avec laquelle on va se pendre. Mais c'est certain que la personne, en acceptant le poste, puis d'ailleurs, dans la description de poste, c'est déjà écrit, hein, mais en acceptant, elle doit se dire, est-ce que j'ai les moyens de ma responsabilité ou non? Et puis, si j'ai pas les moyens, il faut que je les obtienne. Sinon, il faut réviser les attentes, là, à quelque part. C'est pas réaliste. Mais depuis plusieurs années, vous savez, on prévoit des délais d'attente. On prévoit des nombres de personnes. On le fait pas, puis ça continue. Je vous dis pas qu'il y a pas de malheur entre les deux. Il y en a beaucoup. Mais c'est comme si, en bout de ligne, cette imputabilité-là, elle n'existait pas. C'est comme si on se disait, on aurait dû, mais on l'a pas fait. Et sur le plan de l'éthique, l'imputabilité, c'est la réalisation d'une promesse. Donc, franchement, c'est pas à prendre à la légère, là. Mm-hmm. C'est un concept essentiel quand on est dans le prendre soin, dans le domaine de la santé, par exemple. Mais même dans le domaine administratif, on s'engage pour quelque chose, on doit le réaliser sinon. Et c'est ce sinon-là que je crois que M. Legault veut ajouter, ce qui est une bonne chose.
Oui, effectivement. Merci beaucoup, René Villemure, pour ces précisions. René Villemure est éthicien. On va s'arrêter ici. Conclusion avec Pierre Blin, des usagers de la santé du Québec et quelques-uns de vos commentaires. À tout de suite, tout le monde. Restez là. Bon, on a dit beaucoup de choses là, sur la responsabilité future des patrons du réseau de la santé. Seront-ils effectivement imputables de leurs actes, responsables de leurs actions? C'est ce que souhaite François Legault. Steve, vous y croyez, vous?
Pas du tout. C'est simple, c'est pas du tout. Ouais. Non. C'est comme votre monsieur de l'éthique tantôt a parlé, là, imputabilité de façade. J'ai adoré. Mm. J'ai adoré ça. Petite anecdote. Mon père, CHSLD, j'ai arrêté de travailler pendant 7 mois pour m'en occuper. Il faisait de l'Alzheimer, de la démence. À un moment donné, ben, regarde, pour faire des choix, là, c'était moi ou c'était lui. Puis il y a des gens qui m'avaient averti de faire attention que ça pouvait être moi qui travaillais à l'hôpital. Bon. On a décidé, la famille, de placer mon père en CHSLD gouvernemental. Ça donne bien mon médecin de famille, moi, c'est mon ami. Quand j'ai vu le tapot de pilules qu'il donnait à mon père, j'ai commencé à prendre les noms des pilules. J'ai demandé à mon médecin, qu'est-ce que c'est ça? Mm-hmm. Ben, c'est pour l'engourdir, c'est pas qu'il soit tannant, c'est pour qu'il soit un légume dans son lit. Ah. Mon père n'avait jamais pris de médicaments de sa vie, jamais. Donc, à quelque part, moi, je crois sincèrement que mon père, la mort est arrivée d'une façon très rapide. Puis je crois sincèrement que c'est à cause des pilules. Parce que quelqu'un qui n'a jamais pris de pilules fortes, de drogues fortes ou whatever, là, tu sais, ben, ça va avoir un effet sur sa personne, ça va avoir un effet sur son cerveau.
Hey,
il donnait des pilules, là, que mon docteur m'a dit, il donne ça des cancéreux en phase terminale. Mon père n'était pas cancéreux en phase terminale, il souffrait d'Alzheimer et de démence. C'est un homme de 6 pieds 2 qui a toujours travaillé toute sa vie. Puis, quand on parle de démence et d'Alzheimer, habituellement, ça s'étale sur des années. Mon père, ça s'est réglé dans 4 ans. Je trouve ça complètement aberrant. Puis, c'est pas juste l'imputabilité au niveau des CHSLD, c'est l'imputabilité au niveau de l'appareil gouvernemental en entier.
Ouais,
le ministère de la Justice, nommez-les tous. Regardez, je sais, j'ai pas beaucoup de temps. Merci pour votre excellent travail. Continuer de fouiller, continuer de mettre ça sur la place publique, c'est peut-être ça qui va faire changer. Parce que vous avez le pouvoir de parler. Ces gens-là sont muselés de tous bords, tous côtés. Puis, ils garochent la balle, pareil comme les joueurs de basketball avec le ballon de basket.
Là, merci. Là. Merci beaucoup, Steve. Merci bien. Puis, wow, je comprends. Puis c'est très large aussi ce que nous disait Steve. C'est pas seulement, oui, il y a la volonté de faire les choses comme il faut, mais comme nous le disait M. Villemure tout à l'heure, mais il y a aussi comment on traite les personnes âgées dans les CHSLD. Steve qui décrivait son père puis qui disait qu'à la fin de sa vie, on l'endormait avec des pilules. Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi comme traitement? Moi, je mettrais ça aussi dans la responsabilité des patrons puis du gouvernement puis du ministre de la Santé. C'est quels soins en fin de vie, pour les gens CHSLD, d'être parké là, assoupi, endormi, un changement de couche, un bain à la semaine, des patates pilées, on le connaît, le dossier, là. Ça brise le cœur, sincèrement, ça brise le cœur. Pierre Blin, le mot de la conclusion là-dessus, Pierre, vous êtes les usagers de la santé du Québec, c'est votre gros dossier.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les interventions qui ont eu lieu. Monsieur Villemure a amené quelque chose d'extrêmement important. J'ai beaucoup de respect pour René Villemure. J'ai travaillé avec lui. Il faut qu'on donne les moyens aux personnes en CHSLD pour faire leur mission.
Ouais.
Ce que Steve vient de dire, la même chose. Ça aussi, ça faisait partie des engagements. Il faut qu'on ait suffisamment de personnel pour ne pas avoir à endormir le monde parce que le problème est là. Le personnel n'a pas le temps de s'occuper des gens.
Ouais.
Et ce que madame a dit tantôt, 452 personnes sont décédées dans le réseau de la santé en 18-19. De ce nombre, 279 sont en CHSLD avec des chutes. C'est 61%. C'est ce que la première intervenante nous a parlé.
Oui.
Le problème est là. Donc, il faut qu'on mette en place des mesures pour bien soigner les gens.
Mais ça se peut pas. On les laisse tomber au propre comme au figuré.
Absolument.
C'est épouvantable. Pierre Blain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est un dossier qui va être suivi, bien sûr. On sait aussi que le gouvernement Legault a promis d'instituer une enquête sur ce qui s'est passé. On ne sait pas quand, par exemple.
On ne sait pas quand, puis on ne sait pas avec qui. Nous, on a d'ailleurs offert notre d'y aller. Si nous, des usagers de la santé, nous étions dans les visites d'évaluation, je suis sûr qu'on pourrait faire changer les choses. Mais malheureusement, ils ne nous veulent pas parce qu'on parle trop.
OK. Non, oui, bien, c'est un bon point, ça, Pierre. Merci beaucoup, Pierre Blain.
Bonne tournée et bonne saison.
Oui, merci. Un autre dossier important, et puis ça a eu cours tout au cours de cette dernière heure qui vient de se passer, c'est le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui présente un plan un peu actualisé de la rentrée scolaire. Puis je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. On va en parler, nous, en deuxième heure d'émission. Vous aurez la parole. En attendant, on va rejoindre Alexis Sanson, notre journaliste de Cogeco Nouvelles, qui a assisté à cette conférence de presse de Jean-François Roberge. Bonjour, Alexis.
Bonjour, Isabelle.
Qu'a dit le ministre, en gros?
Ben, d'abord, le ministre Jean-François Roberge a annoncé un investissement là, supplémentaire de 20 millions de dollars qui va permettre l'embauche là, de techniciens en éducation spécialisée, d'enseignants, de tuteurs. Ça équivaut à temps complet là, environ à 350 personnes, ce qui va venir donner un coup de main aux élèves en difficulté d'apprentissage qui ont été retardés dans le Grand Montréal. L'école primaire, entre autres, n'a pas repris, contrairement ailleurs. Au Québec. Donc ça va venir donner un coup de main à ces élèves-là pour essayer de reprendre le retard. Et il a également été question d'une annonce de 560 000 heures qui sont libérées aux enseignants. Parce que, Isabelle, à la fin de chaque année scolaire, au début de l'année, il y avait tout le temps une validation des codes qui devait être effectuée, qui sert à diagnostiquer, bon, tel élève, est-ce qu'il y a des difficultés d'apprentissage? Bon, tel élève, OK, lui est autiste. Bon, lui, il y a des difficultés d'apprentissage. Mm-hmm. Lui, il y a un TDAH. Et là, tout ça faisait en sorte qu'à la fin, on pouvait avoir un financement de l'école. Parce que, disons que Judith, si elle, Judith, elle a un trouble de difficulté d'apprentissage, mais elle compte finalement pour deux élèves plutôt qu'un, puis ça permettait d'avoir le financement. Les professeurs vont être libérés de ces codes-là. Donc, le financement va venir directement pour deux ans. Et le ministre Roberge dit que par la suite, on va revoir cette façon de faire-là pour essayer de libérer les choses et rendre ça un peu plus facile. Et la troisième mesure, ben, c'est une campagne d'information là, qui est lancée auprès des parents et également auprès des élèves. On parle surtout des élèves de 15-16 ans pour les convaincre de revenir à l'école. Ce fait qu'essentiellement, là, ce sont les trois mesures qui ont été annoncées aujourd'hui par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, pour la prochaine rentrée scolaire.
Ben, merci beaucoup, Alexis Sanson, journaliste Cogeco Nouvelles. Nous, on va s'arrêter ici, mais je vous donne tout de suite nos numéros pour nous joindre, parce qu'en deuxième heure, je veux avoir votre réaction, justement, sur ce plan actualisé là, de la rentrée scolaire. Il y a beaucoup, beaucoup de parents, vous en êtes peut-être, qui sont extrêmement inquiets. Jean-François Roberge a tenté de répondre à certains points, en revisant certaines choses. Vous avez entendu là, certains points. 20 millions, en tout cas, pour rattrapage, surtout à Montréal, pour les élèves en difficulté, ça va pas être drôle. Les ados de 15-16 ans là, qui vont être assez découragés de retourner en classe. Alors, 514-790-9850 pour Montréal. 1-866-790-9850 pour l'extérieur de la Grande Région. À tout de suite, tout le monde. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, bien sûr.